Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour des lectures en liberté avec ce soir la suite de L'écume des jours de Boris Vian. Colin entra. Il gratta ses pieds sur une grille luisante aux lames acérées et suivit un couloir bas, bordé par des lampes à lumière pulsée. Le carrelage était de briques rouges et la partie supérieure des murs était, ainsi que le plafond garni de plaques de verre de plusieurs centimètres d'épaisseur, à travers lesquelles on entrevoyait des masses sombres et immobiles. Tout au bout du couloir, il y avait une porte. Elle portait le numéro indiqué dans le journal et il entra sans frapper, comme le recommandait l'annonce. Un vieil homme en blouse blanche, les cheveux embroussaillés, lisait un manuel derrière son bureau. Des armes variées pendaient au mur, des jumelles brillantes, des fusils à feu, des lance-morts de divers calibres et une collection complète d'arrache-cœurs de toutes les tailles. « Bonjour, monsieur, » dit Colin. « Bonjour, monsieur, » dit l'homme. Sa voix était cassée et épaissie par l'âge. « Je viens pour l'annonce, » dit Colin. « Ah !» dit l'homme. « Voilà un mois qu'elle passe sans résultat. C'est un travail assez dur, vous savez. » « Oui, » dit Colin, « mais c'est bien payé. »« Mon Dieu, » dit l'homme, « cela vous use, voyez-vous, et cela ne vaut peut-être pas le prix, mais ce n'est pas à moi de dénigrer mon administration. D'ailleurs, vous voyez, je suis encore en vie. »« Vous travaillez depuis longtemps ?» dit Colin. « 1 an, » dit l'homme, « j'ai 29 ans. » Il passa une main ridée et tremblante à travers les plis de son visage. « Et maintenant, je suis arrivé. Voyez-vous, je peux rester à mon bureau et lire le manuel toute la journée. »« J'ai besoin d'argent, » dit Colin. Ah, « Cela est très fréquent, » dit l'homme, « mais le travail vous rend philosophe. Au bout de 3 mois, vous en aurez moins besoin. »«
C'est pour soigner ma femme, » dit Colin.
« Ah, oui, » dit l'homme. « Elle est malade, » expliqua Colin. Je n'aime pas le travail.
Je regrette pour vous, dit l'homme. Quand une femme est malade, elle n'est plus bonne à rien.
Je l'aime, dit Colin.
Sans doute, dit l'homme. Sans ça, vous ne voudriez pas travailler. Je vais vous indiquer votre poste. C'est à l'étage au-dessus.
Il guida Colin à travers des passages nets aux voûtes surbaissées et des escaliers de briques rouges, jusqu'à une porte voisine d'autres portes qui étaient marquées d'un symbole.
« Voilà, » dit l'homme, « entrez, je vais vous expliquer le travail. »
Colin entra. La pièce était petite, carrée. Les murs et le sol étaient de verre. Sur le sol reposait un gros massif de terre en forme de cercueil, mais très épais, 1 mètre au moins. Une lourde couverture de laine était roulée à côté, par terre. Aucun meuble. Une petite niche pratiquée dans le mur renfermait un coffret de fer bleu. L'homme alla vers le coffret et l'ouvrit. Il en retira 12 objets brillants et cylindriques, avec un trou au milieu, minuscule.
« La terre est stérile, vous savez ce que c'est, » dit l'homme. Il faut des matières de premier choix pour la défense du pays, mais pour que les canons de fusil poussent régulièrement et sans distorsion, on a constaté depuis longtemps qu'il faut de la chaleur humaine. Pour toutes les armes, c'est vrai d'ailleurs.
« Oui, » dit Colin.
Vous pratiquez 12 petits trous dans la terre, dit l'homme, répartis au milieu du cœur et du foie, et vous vous étendez sur la terre après vous être déshabillé, vous vous recouvrez avec l'étoffe de laine stérile qui est là, et vous vous arrangez pour dégager une chaleur parfaitement régulière. »
Il eut un rire cassé et se tapa la cuisse droite. « J'en faisais 14 les 20 premiers jours de chaque mois. Ah, j'étais fort !»«
Alors ?» demanda Colin.
« Alors, vous restez comme ça 24 heures. »
Et au bout de 24 heures, les canons de fusil ont poussé. On vient les retirer, on arrose la terre d'huile et vous recommencez.
« Il pousse vers le bas ?» dit Colin.
« Oui, c'est éclairé en dessous, dit l'homme. » Ils ont un phototropisme positif, mais ils poussent vers le bas parce qu'ils sont plus lourds que la Terre. Alors on les éclaire surtout en dessous pour ne pas qu'il y ait de distorsion.
Et les rayures, dit Colin.
Ah, ceux de cette espèce-là poussent tout rayés, dit l'homme. Ce sont des graines sélectionnées.
À quoi servent les cheminées ? Demanda Colin.
C'est pour l'aération, dit l'homme. Et la stérilisation des couvertures et des bâtiments. Ce n'est pas la peine de prendre des précautions spéciales, car en fait, c'est très énergique.
Ça ne marche pas avec leur chaleur artificielle, dit Colin.
Mal, dit l'homme. Il leur faut la chaleur humaine pour bien grandir.
Vous employez des femmes, dit Colin.
Elles ne peuvent pas faire le travail, dit l'homme. Elles n'ont pas la poitrine assez plate pour que la chaleur se répartisse bien. Je vais vous laisser travailler.
« Je gagnerai bien 10 doublezons par jour, » dit Colin.
« Certainement, » dit l'homme, « et une prime si vous dépassez 12 canons. »
Il quitta la pièce et ferma la porte. Colin tenait les 12 graines dans sa main. Il les posa à côté de lui et commença à se déshabiller. Il avait les yeux fermés et ses lèvres tremblaient de temps en temps.
Bah, « Je ne sais pas ce qui se passe, » dit l'homme.
« Ça marche très bien au début, mais avec les derniers, nous ne pourrons faire que des armes spéciales. »«
Vous allez me payer tout de même ?» demanda Colin, inquiet. Il devait toucher 70 doublezons et une prime de 10 doublezons. Il avait fait de son mieux, mais le contrôle des canons révélait certaines anomalies.
« Voyez-vous-même » dit l'homme.
Il tenait un des canons devant lui et montrait à Colin l'extrémité évasée.
« Je ne comprends pas, » dit Colin.
« Les premiers étaient parfaitement cylindriques. »«
Bien entendu, on peut les utiliser à faire des tromblons à feu, » dit l'homme, « mais c'est le modèle d'il y a 5 guerres, et nous en possédons déjà un gros stock. C'est ennuyeux. »«
Je fais de mon mieux, » dit Colin.
« Certainement, » dit l'homme, « je vais vous donner vos 80 doublezons. »
Il prit dans le tiroir de son bureau une enveloppe cachetée.
Je l'ai fait porter ici pour éviter d'aller au service de paiement, dit-il. Cela prend quelquefois des mois pour obtenir son argent et vous aviez l'air pressé.
Je vous en remercie, dit Colin.
Je n'ai pas encore examiné votre production d'hier, dit l'homme. Elle va arriver tout de suite. Vous ne voulez pas attendre un instant ?
La voix chevrotante et boiteuse était une souffrance pour les oreilles de Colin.
Je vais attendre, dit-il. « Voyez-vous, dit l'homme, nous sommes forcés de faire très attention à ces détails parce qu'un fusil droit doit tout de même être pareil à un autre fusil, même s'il n'y a pas de cartouche. »«
Oui, dit Colin. »«
Il n'y a pas souvent de cartouche, dit l'homme. On est en retard sur les programmes de cartouches. On en a de grandes réserves pour un modèle de fusil qu'on ne fabrique plus. Mais on n'a pas reçu l'ordre d'en faire pour les nouveaux fusils. Alors, on ne peut pas s'en servir. » Mais ça ne fait rien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un fusil contre une machine à roues ? Les ennemis fabriquent une machine à roues pour 2 fusils que nous faisons. Alors nous avons la supériorité du nombre. Mais une machine à roues ne se soucie pas d'un fusil, ou même de 10 fusils, surtout sans cartouche.
On ne fabrique pas de machine à roues ? Demanda Colin.
Si, dit l'homme. Mais on finit à peine le programme de la dernière guerre. Alors elles ne marchent pas bien et il faut les démolir. Et comme elles sont très solidement construites, cela prend beaucoup de temps.
On tapa à la porte et un manutentionnaire parut, poussant devant lui un chariot blanc stérilisé. Sous un linge blanc, il y avait la production de Colin pour les derniers jours. Le linge se soulevait à l'un des bouts. Cela n'aurait pas dû se produire, avec des canons bien cylindriques, et Colin se sentit inquiet. Le manutentionnaire sortit en fermant la porte.
Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau au fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Il rêvait des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ses images en partance. Le fils du patron venait nous visiter au sortir du nightclub avec de jolies femmes. Il nous regardait faire, essayait d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Bourgeois adolescents aux mythes ouvriers, militants acharnés de ce rêve qui bouge, qui serait un beau jour de gauche bien rangé. Tricolore et tranquille, la zone, c'était rouge. La noirceur des blousons nous faisait des étés sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques. Nous déroulions nos chaînes essayant de décrocher la montée de l'amour, de la paix et de la musique. Quand le car avalait sa ration de 6 heures, de mains brûlées de silicose et de gros rouges, nous rentrions vidés dans nos cuisines seules. Un sourire, un café, la douce, rien ne bouge. La radio tapinait à l'étage inférieur. On dormait dans l'enzyme et dans le carrefour. Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs. Nos mamans affairées voyaient baisser le jour. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles. Vers des pays dociles. Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du business. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. Oh mon amour, emporte-moi. emporte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays tranquilles.
Et donc après cette pause musicale, nous retrouvons L'écume des jours de Boris Vian.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Chloé dormait. Dans la journée, le nénuphar lui prêtait la belle couleur crème de sa peau. Mais pendant son sommeil, ce n'était pas la peine et les taches rouges de ses joues revenaient. Ses yeux faisaient deux marques bleutées sous son front. Et de loin, on ne savait pas s'ils étaient ouverts. Colin était assis sur une chaise dans la salle à manger et il attendait. Il y avait beaucoup de fleurs autour de Chloé. Il pouvait encore attendre quelques heures avant de chercher un autre travail. Il voulait se reposer pour faire bonne impression et prendre un emploi vraiment rémunérateur. Il faisait presque noir dans la pièce. La fenêtre était fermée jusqu'à 10 cm de la pluie et le jour n'entrait plus qu'en une bande étroite. Il avait juste le front et les yeux éclairés. Le reste de sa figure vivait dans l'ombre. Son pick-up ne marchait plus. Il fallait maintenant le remonter à la main pour chaque disque et ça le fatiguait. Les disques s'usaient aussi. Maintenant, pour certains, on reconnaissait même difficilement la mélodie. Il pensait que si Chloé avait besoin de quelque chose, la souris viendrait l'avertir tout de suite. Est-ce que Nicolas épouserait Isis? Quelle robe mettrait Isis pour son mariage? Qui sonnait à la porte? Bonjour, Alice, dit Colin. Tu viens voir Chloé? Non, dit Alice. Je viens seulement. Il pouvait rester dans la salle à manger. Avec les cheveux d'Alice, il y faisait plus clair. Il y restait deux chaises. Tu t'ennuyais, dit Colin? Je sais ce que c'est. Chic est là, dit Alice. Il est chez lui. Tu dois rapporter quelque chose, expliqua Colin. Non, dit Alice. Je dois rester ailleurs. Oui, dit Colin. Il est en train de repeindre. Non, dit Alice. Il a tous ses livres, mais il ne veut plus de moi. Tu lui as fait une scène? Dit Colin. Non, dit Alice. Il a mal compris ce que tu lui as dit, mais quand il ne sera plus en colère, tu lui expliqueras. Il m'a simplement dit qu'il n'avait plus que juste assez de doublezon pour faire relier son dernier livre en peau de néant, dit Alice, et qu'il ne pouvait plus supporter de me garder avec lui parce qu'il ne pouvait rien me donner et je deviendrais laide avec les mains abîmées. Il a raison, dit Colin, tu ne dois pas travailler. Mais j'aime Chic, dit Alice. J'aurais travaillé pour lui. Ça ne sert à rien, dit Colin. D'ailleurs, tu ne peux pas, tu es trop jolie. Pourquoi m'a-t-il mise à la porte? Dit Alice. J'étais vraiment très jolie. Je ne sais pas, dit Colin. Mais moi, j'aime beaucoup tes cheveux et ta figure. Regarde, dit Alice. Elle se leva, tira le petit anneau de sa fermeture et la robe tomba par terre. C'était une robe de laine claire. Oui, dit Colin. Il faisait très clair dans la pièce et Colin voyait Alice tout entière. Ses seins paraissaient prêts à s'envoler et les longs muscles de ses jambes déliées à toucher étaient fermes et chauds. Je peux t'embrasser, dit Colin. « Oui, dit Alice, je t'aime bien. »« Tu vas avoir froid, dit Colin. » Elle s'approcha de lui, elle s'assit sur ses genoux et ses yeux se mirent à pleurer sans bruit. « Pourquoi est-ce qu'il ne veut plus de moi ?» Colin la berçait doucement. « Il ne comprend pas. »« Tu sais, Alice, c'est un bon garçon pourtant. » Il m'aimait beaucoup, dit Alice. Il croyait que les livres accepteraient de partager, mais ça ne se peut pas. Tu vas avoir froid, dit Colin. Il l'embrassait et lui caressait les cheveux. Pour
pourquoi est-ce que je ne t'ai pas rencontré d'abord ? Dit Alice. Je t'aurais aimé autant, mais maintenant je ne peux pas, c'est lui que j'aime.
Je sais bien, dit Colin. J'aime mieux Chloé aussi, maintenant.
Il la fit se lever et ramassa sa robe. « Remets-la, ma chatte, dit-il, tu vas avoir froid. »«
Non, dit Alice. Et puis ça ne fait rien. »
Elle se rhabilla machinalement.
« Je ne voudrais pas que tu sois triste, dit Colin. Tu es gentil, dit Alice, mais je suis très triste. Je crois que je vais pouvoir faire quelque chose pour Chic, tout de même. »
« Tu vas aller chez tes parents, dit Colin, ils voudraient peut-être te voir, ou chez Isis. »«
Chic ne sera pas là-bas, dit Alice. Je n'ai pas besoin d'être chez personne, si Chic ne vient pas. »«
Il viendra, dit Colin, j'irai le voir. »«
Non, dit Alice, on ne peut plus entrer chez lui, c'est toujours fermé à clé. »«
Je le verrai tout de même, dit Colin, ou alors il viendra me voir. »«
Je ne crois pas, dit Alice. »
Ce n'est plus le même Chic.
Mais si, dit Colin, les gens ne changent pas, ce sont les choses qui changent.
Je ne sais pas, dit Alice.
Je vais t'accompagner, dit Colin, je dois aller chercher du travail.
Je ne vais pas par là, dit Alice.
Je vais t'accompagner pour descendre, dit Colin.
Elle était en face de lui. Colin posa les deux mains sur les épaules d'Alice. Il sentait la chaleur de son cou et les cheveux doux et frisés près de sa peau. Il suivit le corps d'Alice avec ses mains. Elle ne pleurait plus. Elle n'avait pas l'air d'être là.
« Je ne voudrais pas que tu fasses des bêtises, » dit Colin.
« Oh, » dit Alice, « je ne ferai pas de bêtises. »«
Reviens me voir, » dit Colin, « si tu t'ennuies. »«
Peut-être je reviendrai te voir, » dit Alice. Elle regardait à l'intérieur.
Colin la prit par la main, ils descendirent l'escalier. Ils glissaient de temps à autre sur les marches humides. En bas, Colin lui dit au revoir.
Elle resta debout et le regarda s'en aller. Colin apercevait le 30e pilier. Il marchait depuis le matin dans la cave de la réserve d'or. Sa tâche consistait à crier quand il voyait des hommes venir voler l'or. La cave était très grande. Il fallait un jour en allant vite pour en faire le tour. Au centre se trouvait la chambre blindée où l'or mûrissait lentement dans une atmosphère de gaz mortel.
Ce métier rapportait beaucoup. Si l'on arrivait à faire le tour dans sa journée. Colin ne se sentait pas en assez bonne condition physique et il faisait trop nuit dans la cave. Malgré lui, il se retournait de temps en temps et perdait sur l'horaire et il ne voyait derrière lui que le minuscule point rayonnant de la dernière lampe et devant lui la lampe suivante qui grossissait lentement.
Les voleurs d'or ne venaient pas tous les jours, mais on devait tout de même passer au contrôle au moment prévu, sinon on subissait une retenue d'appointement. Il fallait respecter l'horaire pour se trouver prêt à crier quand les voleurs passaient. C'étaient des hommes d'habitude très régulières.
Colin souffrait du pied droit. La cave, construite de dures pierres artificielles, présentait un sol rugueux et inégal. Il força un peu en dépassant le 8e ligne blanche afin d'arriver au 30e pilier en temps voulu. Il se mit à chanter tout haut pour accompagner sa marche et s'arrêta car les échos lui renvoyaient les mots hachés et menaçants et chantaient un air opposé au sien. Les jambes douloureuses, il allait inlassablement et dépassa le 30e pilier. Machinalement, il se retourna, croyant voir quelque chose derrière. Il perdit encore 5 secondes et fit quelques pas accélérés pour se rattraper.
On ne pouvait plus entrer dans la salle à manger. Le plafond rejoignait presque le plancher auquel il était réuni par des projections mi-végétales, mi-minérales qui se développaient dans l'obscurité humide. La porte du couloir ne s'ouvrait plus. Seul subsistait un étroit passage menant de l'entrée à la chambre de Chloé. Isis passa la première. Nicolas la suivait.
Il avait l'air hébété. Quelque chose gonflait la poche intérieure de son veston et de temps à autre, il portait la main à sa poitrine. Isis regarda le lit avant d'entrer dans la chambre. Chloé était toujours entourée de fleurs. Ses mains allongées sur les couvertures tenaient à peine une grosse orchidée blanche qui paraissait beige à côté de sa peau diaphane. Elle avait les yeux ouverts et remua à peine en voyant Isis s'asseoir près d'elle. Nicolas vit Chloé et détourna la tête. Il aurait voulu lui sourire. Il s'approcha d'elle et lui caressa la main. Il s'assit aussi. Et Chloé ferma doucement les yeux et les rouvrit. Elle paraissait contente de les voir. « Tu dormais ?» demanda Isis à voix basse. Chloé dit non avec les yeux. Elle chercha la main d'Isis avec ses doigts maigres. Sous son autre main, elle cachait la souris, dont ils virent briller les yeux noirs et vifs et qui trottina sur le lit pour se rapprocher de Nicolas. Il la prit délicatement et l'embrassa sur son petit museau lustré. Et elle retourna près de Chloé. Les fleurs frissonnaient autour du lit, elles ne résistaient pas longtemps et Chloé se sentait plus faible d'heure en heure. « Où est Colin ?» demanda Isis. « Travail !» dit Chloé dans un souffle. « Ne parle pas, » dit Isis, « je poserai les questions autrement. » Elle s'approcha et embrassa Chloé avec précaution. « Il travaille à la banque ? » dit-elle. Les paupières de Chloé se fermèrent. Et on entendit un pas dans l'entrée. Colin apparut à la porte. Il tenait de nouvelles fleurs, mais il n'avait plus de travail. Les hommes étaient passés trop tôt. Il ne pouvait plus marcher comme il faisait de son mieux. Il rapportait un peu d'argent, ses fleurs. Chloé paraissait plus tranquille. Elle souriait presque maintenant. Et Colin vint tout près d'elle. Il l'aimait beaucoup trop pour les forces qu'elle avait maintenant et l'effleurait à peine de peur de la briser complètement. De ses pauvres mains encore abîmées par le travail, il lissa les cheveux sombres. Il y avait Nicolas, Colin, Isis et Chloé. Nicolas se mit à pleurer, car Chic et Alice ne viendraient jamais plus et Chloé allait si mal. Nous avons donc terminé Lectures en liberté pour ce soir et nous reprendrons la suite de L'écume des jours de Boris Vian demain. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.